Une fois n'est pas coutume, nous nous rendons avec nos micros à Oust à la rencontre d'une nouvelle famille et de leur amie Mélina qui ont un voyage à nous raconter.
Direction l'Afrique du Sud, où Shaini et Shaoli ont vécu ainsi que leurs enfants Cheyenne et Eliane une grande partie de leur histoire et où ils retournent cette fois-ci pour un voyage touristique en safari.
Pour Mélina, c'est une première sur le continent africain.
Vous nous excuserez pour le manque de contextualisation géopolitique et de mise en perspective de la question touristique, mais nous avons choisi pour cette émission particulière de laisser libre cours au témoignage et de vous laisser l'apprécier à votre gré. En piste !
Alright, no, cool. It sounds like a plan.
Yeah, then maybe we just do like a day trip there. So then your dad doesn't need to like organize accommodation.
Value of corporate staff and aid from
corporate staff.
Yeah. Yes.
Alright. Any bus for the 29th?
Okay.
And that deal like 29th is all good.
Alright, that's good.
Vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs, une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
Un invité,
son témoignage,
son parcours,
son expérience,
des chroniques,
géopolitiques,
juridiques,
linguistiques.
Bonjour, bienvenue sur Radio Saint-Ferréol.
94.2 dans l'émission Ici et d'ailleurs.
On est aujourd'hui chez Mélina et Thomas qui reviennent d'Afrique du Sud en compagnie de Shani, Shaoli, Cheyenne et Eliam.
Salut tout le monde!
Coucou!
Alors, donc on va parler un petit peu de votre voyage. Alors, les enfants, on avait envie de vous faire participer parce que c'est quand même exceptionnel d'avoir fait un si grand voyage alors que vous êtes scolarisés à Oust, mais là vous êtes retourné à un pays que vous connaissez bien, où toi tu es né, Eliam.
Ouais.
T'as passé tes 7 premières années en Afrique du Sud. T'as 9 ans aujourd'hui ?
10.
10 ans. Et là tu viens de repasser 2 mois quand ici il faisait froid un peu. Et toi t'es retourné en Afrique du Sud avec papa, maman, ton petit frère et deux amis des parents. Peut-être que je commence une première question. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le plus plu sur ces 2 mois?
Ce qui m'a vraiment, ce que j'ai vraiment aimé, c'est les animaux, toutes les sortes d'animaux, ce qui me marquait beaucoup, c'est que des animaux traversaient la route. En plein milieu de la route, donc il y avait des vaches qui traversaient sur la route principale et il y avait des vaches qui traversaient. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que souvent avec mes parents, il y avait des tortues, des petits animaux comme ça sur les routes. Et donc nous, on s'arrêtait sur le côté, on mettait nos clignotants, on la prenait, on rentrait dans la voiture, puis on partait, on rentrait un peu dans les fougères et on allait la reposer plus loin de la route. Pour pas qu'elle se fasse écraser.
Est-ce que vous avez trouvé le troupeau des 150 éléphants?
Il y en a 143.
Tu les as comptés?
Oui. On est au début, on est sur le bord de la route, au début de la rivière, il y a un lodge à notre droite, on est au début du troupeau en fait. On a le troupeau sur notre droite.
Ça s'appelle Chobi Lodge.
coup, bah, nous, on s'est arrêté sous un arbre parce que on voulait descendre la pression des roues. Donc, pour nous retrouver,
on continue. Enfin, on a réussi à trouver un caméléon sur la route, donc on l'a pris. On l'avait même amené dans la voiture, on l'avait mis sur la veste de mon papa qui était rouge. Et tout doucement, il commençait à changer de couleur. Mais il n'était pas resté assez longtemps pour devenir rouge. Mais c'était vraiment impressionnant de le voir comment il devenait plus foncé et qu'il changeait de couleur. Et aussi, j'ai aimé quand j'ai vu le guépard et le lion.
Et toi, Cheyenne, tu veux nous dire ?
Alors, moi, j'ai bien aimé aussi les animaux. On a vu, surtout qu'on a vu plein d'animaux. On s'est super beaucoup amusé. Et du coup, j'ai adoré. On a vu des girafes, des zèbres, des lions, un guépard, mais on n'a pas vu de léopard. Et du coup, on a vu plein d'animaux. Et
des chongololo.
Et des chongololo. Ah, ouais, c'est comme des mille pattes. On avait des petits et après, il y avait des géants mille pattes. Et du coup, c'est impressionnant. Et voilà.
Un petit peu sur l'étagère, là. Qu'est-ce que tu vois ?
Un hippopotame.
Ok.
Un zèbre.
Ouais. Parce que c'est des animaux qu'on a vus, nous, en Afrique du Sud. Hein.
Oui.
D'accord. Alors, regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit coin, là-bas ?
Là-bas, il y a comment ça s'appelle ?
Une guinifède.
Un guinifède.
Alors, on dit une petite pintade. En français, on dit une pintade.
Une pintade.
Regarde, ici, tu as des épices d'Afrique du Sud.
Il y a un rhinocéros, un éléphant, il y a plein d'oiseaux, il y a des girafes, il y a des singes, il y a des red-halted.
Alors, leur spécificité, c'est qu'ils sont faits avec le tissu local qui s'appelle le chouéchoué.
Il y a un hippopotame qui ouvre sa bouche.
Et alors, t'as vu, il est fait tout en perles. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de l'art sud-africain.
Ça, c'est un bois qu'on appelle le yellowwood.
Ah ouais.
Parce qu'il a une double couleur. Il a une couleur claire et il a une couleur sombre.
Et là-bas aussi, on a vu des pingouins, des phoques. Ah, non. Bon, les gazelles, on en a vu des tonnes.
Ils étaient blasés à la fin.
Ouais.
Oh, encore des gazelles.
Il y avait une sorte de gazelle qui s'appelait les impala. On voyait partout.
Celle avec les
non, ça c'est le springbok. Ah. Celui avec le trait blanc sur le
springbok. Springbok, c'est l'animal national de l'Afrique du Sud.
Ouais.
C'est l'équipe de rugby aussi. Ouais, c'est ça.
Ouais, et donc avec Medina, chaque fois qu'on voyait des impalas, mais on faisait encore des impalas et on passait devant.
Moi, j'aurais une question pour Mélina. Tu as dit que c'était ton premier voyage en Afrique du Sud. Est-ce que tu peux nous dire l'impression que tu as eue, ce que tu as ressenti, tes émotions quand tu es sortie de l'aéroport ?
Alors, c'était mon premier voyage en Afrique du Sud. C'était mon premier voyage en Afrique avec Thomas. Et c'est marrant parce que c'est un continent que je redoutais. quand j'étais jeune, j'avais pas envie de partir seule là-bas. Je savais que ça allait être une rencontre incroyable et j'avais envie d'être accompagnée et d'être âgée, d'être un peu plus mature. Donc quand Shaoli et Shani nous ont dit hey, on va là-bas et tout, vous venez, on n'a pas réfléchi, avec Thomas on a dit allez on y va. Et je me suis dit ouais c'est le bon âge. C'est le bon âge pour rencontrer la fête. Je vais même te dire que ça a commencé la rencontre dans l'aéroport. Parce qu'on sort de l'avion, on a fait 11 heures de vol, c'était toute une nuit, donc il est tôt le matin, enfin c'est la matinée. Et dans les toilettes de l'aéroport, il y a une dame pipi qui nous accueille, mais avec un sourire et avec un humour, comme si on rentrait dans son bureau. Et en fait, on est plein de femmes africaines, occidentales, on fait la queue, on a dormi à moitié. Donc, il peut y avoir des tensions dans ces moments-là parce qu'il y a peu de toilettes dispo et tout ça. Et elle nous a transformé l'expérience en 3-4 phrases à chacune, en nous regardant dans les yeux et en nous disant bienvenue en Afrique, en fait. Bienvenue chez nous, bienvenue chez moi. Et je pense que cette femme, je m'en rappellerai toute ma vie parce que du coup, il y avait une complicité entre toutes. Et puis quand on ressortait de ces toilettes après avoir fait pipi, on la remerciait de la propreté. Puis en fait, on blaguait tout ensemble sur son lieu incroyable, quoi.
C'était l'arrivée en Afrique.
Ah, c'était l'arrivée en Afrique, c'était l'accueil en fait. Et après, les premières sensations, c'est il fait chaud, on a des pulls, on a des manteaux, on a des collants, des doudounes. Donc c'est vite, mettons-nous à l'aise. Et une sensation de « Ah, c'est ça l'Afrique ?» Parce qu'on est quand même à Johannesburg et c'est quand même une capitale qui est très européanisée aussi architecturalement parlant. Donc je ne suis pas très dépaysée au niveau de l'aéroport. Il est assez impressionnant, assez, il est beau, il est esthétique, il ressemble un peu à l'Occident.
Et Shani, tu connaissais l'Afrique du Sud, c'était pas ta première fois parce que tu y as vécu.
Donc moi j'ai passé 7 ans en Afrique du Sud, mes enfants sont nés là-bas. Et donc là ça faisait 3 ans qu'on avait quitté l'Afrique du Sud et c'est vrai que le retour a été familier. C'était parce que moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Mais c'est vrai que c'était un peu la première fois que je retournais dans un pays dans lequel j'avais fait des racines en fait. J'ai eu mes enfants, donc il y avait vraiment ce mélange de revenir à la maison. Et puis en même temps, on est venu pour faire un voyage. On a passé quand même 7 ans en Afrique du Sud, mais on n'a pas voyagé. Moi j'ai eu les enfants, ils étaient petits. On était dans une routine, j'étais dans une routine de maman. Et là d'un coup, on partait à l'aventure. Donc on allait récupérer un 4x4. Et puis on allait se faire 2 mois de safari.
Il y a 4-5 éléphants adultes avec des tout bébés. À notre gauche et à droite, il y a des bébés zèbres et des adultes zèbres qui se déplacent vers un point d'eau. Les éléphants sont à peu près à 100 mètres. Derrière, il y a des éclairs. Ça y est, les zèbres sont passés. Il reste les éléphants.
Donc c'était une expérience vraiment complètement différente. Donc beaucoup d'excitation et en même temps un mélange de rentrer chez soi. Donc c'était vraiment agréable. Voilà.
My teenage purchased for a reason. If the baby just runs toward us, then it just forces us to pet it. It takes our hand. That would be cute. That would just be cute. Look at that. I got it. I have got it. I have a hoe. I have a gun. Gun. No. I have a hoe.
Yeah, it should stay like cold. Relax. Thank you.
Est-ce que tu as des souvenirs de quand tu habitais là-bas?
Bah oui, on avait une très très grande maison de 400 mètres carrés. On avait une balançoire qu'on accrochait aux arbres. Ce qu'on faisait, on avait aussi des tricycles, des petits engins pour rouler. Et donc, bah, on faisait le tour de la maison comme ça, en roulant.
Et tu avais été à l'école déjà ou tu as commencé l'école en France?
Non, l'école, j'étais à la maternelle, une école Montessori. Là-bas.
Et là, vous avez revu des amis à vous que vous connaissiez? C'est une question large. Hein.
Oui, on a revu beaucoup d'amis. Des amis qu'on connaissait de là-bas.
Et des amis aussi à Chao qui nous ont hébergés quand on s'est fait ce road trip de 2 mois. On a aussi passé du temps chez des potes à toi ou des anciens collègues de taf. Ça, c'était sympa.
Et Chao, on t'a pas encore entendu. Est-ce que tu vas nous parler un peu de votre voyage?
Et presque une bonne partie était déjà partagée. Mais j'ai bien connecté avec la petite rencontre de Mélina par rapport à atterrir en Afrique du Sud, en aéroport. Moi aussi, il y a quelque chose vraiment que tu sens par rapport à la chaleur africaine de bienvenue. N'importe ça, c'est une dame qui travaille, qui nettoyait les toilettes, ou le gens d'immigration.
Oui.
Il y a toujours, tu rentres, tu dis automatiquement, quand j'arrive là-bas, mon accent qui sort, mon petit mot que je connais en africain ou en zoulou, les différentes manières de parler, de discuter avec les gens. Qui sort directement et ça chauffe, ça chauffe vraiment. C'est toujours, il y a un bienvenu, même si les gens ils sont un petit peu sérieux dans ce moment-là. Il y a quelque chose, mais avec une bonne souris et qui s'était accueillir d'une manière vraiment dans sa kaya. Et la kaya, c'est l'endroit de, c'est la maison, c'est. Africaine. Tu sens le village, même il y a un côté vraiment, c'est une énorme ville, presque la plus grande en Afrique, mais c'est quand même un village. Même dehors, les gens qui ramassent des trucs, qui prennent de caddies, des trucs, c'est toujours, il y a une manière de rigoler, de faire la petite blague, de rire ensemble, et ça c'est très, très chouette. Okay. Ça me manque un petit peu. Il y a un côté là. Ça, j'ai pas dit.
Ah, moi, ça me manque en France, moi, je le dis.
Et Shirley, tu as parlé justement de la langue et j'aurais une question aussi un peu à vous tous. Alors Mélina, sur un autre plan, parce que bon, c'était ton premier voyage, et en quelle langue tu t'es exprimée avec les gens que vous avez rencontrés. Et puis je vous ai entendu un peu parler là avant qu'on démarre cette émission, les enfants avec les parents, en quelle langue vous vous parlez?
Moi, avec mon père, on parlait hébreu, avec ma mère, français, et après, pour communiquer avec des personnes, enfin, il y avait des fois des personnes qui parlaient français, après, mais il y en avait plus qui parlaient anglais, on parlait anglais, après, là-bas, il y a trois langues. Il y a l'anglais, l'afrikaans et le zoulou.
Il y a beaucoup plus que ça.
Il y en a 11. Il y en a 11 officiels. Donc moi, je pensais quand on allait arriver avec Thomas qu'on allait parler anglais et qu'on allait pouvoir parler un peu zoulou ou un peu, on nous avait dit, xhosa. Enfin, qu'il se prononce d'ailleurs.
Xhosa.
Xhosa.
Tu peux redire.
Xhosa.
Et donc je me disais, je vais apprendre bonjour, merci, au revoir, c'est bon. Et en fait, comme il y a 11 langues officielles, c'est compliqué parce que qui parle quoi? Donc en fait, nous, on a parlé anglais. Et j'ai appris, ou avec des gardiens de parcs nationaux, ou avec des gens qu'on croisait aux stations-service ou autres, 2-3 mots locaux, ou en zoulou, ou en xhosa. Et c'est tout, parce que même l'afrikaans, j'ai abandonné, quoi.
Et vous qui y avez vécu, comment vous reconnaissez justement qui parle quoi?
Tu peux pas. Moi, je connais un petit peu maintenant le différent accent. Alors, je peux voir les étrangers en Afrique du Sud, des Malawiens, des Zimbabwéens, des Congolaises, ou... oui, c'est sûr qu'il y a tous les côtés africains, français. L'accent, il est vraiment, assez évident. Ça, c'était chouette pour moi la première fois. J'étais en Afrique du Sud, j'ai rencontré des gens, des Africains de Congo, de DRC, de Démocratique République du Congo, et quelques pays qui parlent français. Et je peux parler avec, je peux discuter en français avec les gens qui avant, j'ai eu que anglais pour parler avec. Même c'était cool pour les enfants parce qu'ils rencontraient quand même quelques Africaines qui parlent français.
Well, tonight is a good night.
Et on va dire que dans les 11 langues officielles, il y a beaucoup de gens qui parlent. Donc tout le monde est à peu près
bilingue.
Et beaucoup de gens parlent ou afrikaans, qui est un langage qui a été créé en fait.
De hollandaise, oui, c'est la langue hollandaise.
Hollandaise avec des petits ajouts d'autres langues des tribus, un petit peu, mais pas beaucoup. C'est principalement du hollandais, c'est ça?
Ouais.
Afrikaans aujourd'hui, ouais, c'est afrikaans, c'est hollandaise ou mélange avec, j'imagine. Un petit peu d'anglais ou des allemands, ou je sais pas aujourd'hui exactement la structure de la langue, mais c'est un ancienne hollandaise.
Je crois que j'avais croisé des Belges qui parlent flamand et ils m'ont dit que ça ressemblait à l'ancien flamand, pas mal. Et avec des accents à couper au couteau, donc pour comprendre quand ils parlent anglais, c'est chaud. Et après, je crois qu'il y a beaucoup, le zoulou, il est aussi beaucoup utilisé.
C'est la, oui, la, le Zulu, c'est la langue officielle de l'Afrique du Sud, langue africaine. Parce que oui, les Zulus, c'est la plus grande tribu en Afrique du Sud. Et aussi, ils sont la partie politique, le ANC, c'est le parti politique qui Nelson Mandela il a commencé. C'était un parti Zulu, plutôt Zulu, qui vient de... Parce qu'en Afrique, en général, mais aussi en Afrique du Sud, toutes les tribus, ils sont sur leur chef. Et en Afrique du Sud, il y a le Zulu, le Xhosa, il y a le Ndebele, il y a le Sizilwele. Je connais pas tous les noms de toutes les tribus, c'est quand même, il y a beaucoup. Mais à l'époque, il y avait aussi une grande guerre autour de toutes les tribus. Et les Zoulous, ils ont été les plus, vigilants, peut-être guerrières, et qui sont vraiment, colonisés Afrique du Sud à l'époque, même avant la colonisation des Européens.
Ils habitent sur plusieurs pays, les Zoulous?
Les Zoulous, encore, je ne suis pas hyper connu avec toute l'histoire, mais les Zoulous, oui, ils sont, ils sont arrivés de Centrafrique, après ils ont descendu en Afrique du Sud, parce qu'avant, à l'époque, il y avait tout le Bushmen qui habitent en la côte sud de l'Afrique du Sud. Et je crois que les Zoulous, vraiment faisaient... ou tuer ou faire virer mon centre qui aujourd'hui ils sont plutôt en centre Kalahari. Il n'y a pas vraiment beaucoup qui restent en Afrique du Sud.
Mais tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui parlent Zoulou en Afrique du Sud. Et la communauté Zoulou, elle est un peu à l'occidental ou elle est dans le mode traditionnel en Afrique du Sud?
Il y a la partie qui s'appelle KwaZulu-Natal, c'est le côte est de l'Afrique du Sud, et ça c'est le état Zulu, vraiment l'état Zulu de l'Afrique du Sud.
Il y a 23% encore d'Africains, Sud-Africains, qui sont Zulu.
23%.
Et qui, enfin, 23% qui utilisent la langue Zulu en première langue. C'est ça qu'il dit Monsieur Lanipane.
Juste pour compléter sur les langues, je fais juste une petite parenthèse pour dire que la constitution elle-même garantit le multilinguisme dans le sens où chacun a le droit de parler une des 11 langues officielles reconnues et aucun État ne doit être sélectif ou exclusif que sur une seule langue. Et quand il y a des textes politiques, etc., ils sont traduits au moins dans plusieurs langues, et chacun doit pouvoir s'exprimer dans la langue. Donc visiblement, dans ce que toi tu dis, Shaoli, c'est un enjeu vraiment crucial de fonctionner ensemble, que d'apprendre en tout cas à respecter au moins l'existence de ces différentes cultures, ethnies, langues... au moins pour vivre ensemble. En tout cas, dans l'histoire, l'enjeu s'est présenté et on voit que c'est encore un enjeu actuel.
Et donc, géographiquement, il y a plusieurs pays en Afrique du Sud, presque.
Bah nous, on a, quand on est remonté de Cape Town pour retourner à Johannesburg, on a longé le Lesotho. Et je sais qu'au-dessus, il y a aussi Eswatini. Donc tu as au moins deux pays, on dit enclavés, qui sont encerclés par l'Afrique du Sud. Et le Lesotho, il est sur des montagnes, donc il est en altitude, ça se comprend. Et il y a toute une histoire, je connais peu.
C'est un royaume.
Ouais.
Le royaume de Lesotho, c'est un pays encaissé dans l'Afrique du Sud, vraiment dedans. C'est comme un type dire
C'est sur l'est.
Plutôt centre-est.
Ok, et la partie dont tu parlais avant, où il y a une majorité Zoulou, c'est côté les
autres. Oui, c'est sur la côte complètement est.
Et vous, c'est le voyage que vous avez suivi pour remonter jusqu'au Botswana?
Non, on est parti de Johannesburg, direct nord, pour la frontière avec Botswana. Et là, on a fait un sacré petit tour...
On est remonté dans le nord du Botswana,
nord, oui.
Jusqu'à Mahone.
Oui.
Où on a croisé Waldo.
C'est ça. On est arrivé dans le Acovango Delta, qui c'est les zones de comme tu dis, le plein d'inondations, quoi. C'est
les marais.
C'est le marais, c'est pas vraiment le marais, c'est le flood plains.
Okay. Est-ce que tu dis c'est des plaines où, qui récupèrent inondables. Toute l'eau,
ah, oui.
qui
oui.
sont inondables, pour après pouvoir déjà récupérer de l'eau pour les rivières, pour le Zambèze, et puis pour toutes les plaines qui sont en dessous, en fait, non, c'est ça?
Le Covango Delta, c'est les endroits, les plus grandes sources de l'eau pour toute le presque la partie sud du continent d'Afrique. C'est un énorme...
C'est une zone de stockage à l'air libre de toute l'eau.
Naturelle.
Ouais.
Et vous avez croisé qui, tu dis, Mélina?
Waldo.
Alors, qui est Waldo?
Waouh.
Tu veux nous dire, Chani, tu rigoles un peu.
C'est un ami avec lequel Shaoli a travaillé. Donc il vit au Botswana avec sa femme et ses deux filles. Ce sont des fanatiques de moto cross. Et d'ailleurs, une de ses filles qui a à peine 8 ans, elle est déjà en train de faire des rallyes. Paraît que elle est complètement dingue sur une moto. Donc, mais sinon, il nous a permis de vraiment bien découvrir le Botswana. On s'est fait un magnifique, ce qu'on appelle un braai, donc c'est un barbecue, c'est le nom local de là-bas, pour le jour de l'an, au milieu des animaux sauvages. On avait des girafes et des éléphants qui n'étaient même pas un mètre de nous. Donc c'est vrai qu'on avait des couchers de soleil magnifiques et on était là en train de faire notre barbecue, alors on ne savait pas si... Un lion qui pouvait surgir à tout moment. Donc, il nous a fait vivre des expériences fortes et des expériences qu'on n'aurait jamais pu vivre si on n'avait pas rencontré quelqu'un de là-bas, en fait. Je pense que c'est ça qui a été assez, assez incroyable.
Ouais, et puis c'est vraiment Waldo, pour moi, pour ma part, il nous a vraiment pris sous son aile, comme si on était de la famille. Et on a passé Noël avec eux. On a fait un petit spectacle avec les enfants musical. Tous les matins, c'était quad, moteur, moto et compagnie. Nous, on vivait dans nos petites tentes de toit. On était réveillés par les gamins qui faisaient des circuits. Et puis après, il nous a dit, allez, on va chez... C'était sa sœur, chez qui on allait, qui habitait encore plus haut que Mahone, à Seniati. Et elle était carrément gardienne d'un parc national ou d'un lieu de réserve d'éléphants, comment on pourrait expliquer ? Frontalier à...
C'est un camping.
Ouais, un camping.
C'est un camping. Quand tu fais un camping à Botswana, c'est... Voilà.
Où tu avais des éléphants, des buffles, des zèbres, des girafes qui venaient boire devant le lieu où tu venais regarder le coucher de soleil. Quoi.
On vient de passer entre des éléphants. Il y en a un qui était vraiment pas content, qui nous a fait son intimidation à nous regarder, à agiter ses oreilles, à taper sa patte avant dans le sable. On nous envoyait du sable dessus. C'est assez impressionnant. J'avoue que mon cœur, il était un peu en mode ultra serré. Et là, on vient de les passer tranquillement. Et maintenant, s'offre à nous des girafes. Il y a 5 girafes devant nous. Il y a encore des éléphants. Il y a un autre groupe d'animaux à côté. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et à gauche, il y a encore des des bruits. Comme il y a des buissons, on ne sait pas qui se cache derrière. Waouh! Là, il y a 5 girafes et 2 éléphants qui s'amusent à se batailler un peu. Il y en a un qui est assis et il s'enroule les troncs, puis ils se font des pousses-têtes. Ça y est, il se met debout. Waouh! Je relâche un peu la pression puisque c'est intimidant un éléphant. Donc là, on va retrouver Shaoli et Shani, qu'on avait perdu de vue depuis qu'on est rentré dans le parc national. Et au fond de cette savane magnifique, il y a des gros nuages avec de la pluie à certains endroits. Les nuages qui lâchent leur pluie. Et puis il y a une lodge trop mignonne, entourée d'arbres et aussi de fils électriques. Pas se faire attraper, dévorer, défoncer par les animaux sauvages qui sont en bon nombre ici.
Autant quand vous étiez en Afrique du Sud, c'était moins sauvage, et quand vous êtes arrivé au Botswana, c'était très sauvage, ou alors dès l'Afrique du Sud, vous avez déjà été...
Ça dépend où en Afrique du Sud. Et... je ne sais pas s'il y a moins ou plus, mais disons que les animaux au Botswana ont moins de grillages à traverser, donc ils sont plus accessibles, on va dire.
Et quel rapport ont les gens là-bas avec les animaux, avec la nature ? Parce que là, j'entends aussi qu'il y avait ce côté aventure, découverte, qu'on peut aussi avoir envie de voir en tant qu'étranger, voyageur, bien qu'on ne connaisse pas. Mais là-bas, quelle attitude il y a par rapport aux animaux et à toute cette nature environnante ?
J'ai envie de dire, ça dépend qui. Quand tu discutes avec des gardes de camping qui gèrent que les hyènes ou les lions ne viennent pas fouiller dans les affaires des touristes campeurs, eux, ils sont fanas des animaux dans un sens, c'est leur métier. Et il y en a d'autres, ça les embête de travailler là-dedans, ils aimeraient faire autre chose. Et en même temps, je les ai trouvés hyper précautionneux, parce que quand tu roules, tu peux croiser tout type d'animaux sur les autoroutes. Donc moi, j'ai vu que des voitures qui ralentissent, qui mettent les warnings. Et en même temps, tu vois qu'il y en a qui se font quand même toucher par des voitures. Tu vois des cadavres d'animaux sur les bords de route. Peu, mais t'en vois. Je sais pas comment ça se passe. Ils ont tous... ceux qui peuvent avoir l'électricité, ils ont des grosses barrières électriques tout autour de chez eux. Parce que quand même, ça la fout mal si t'as un hippopotame qui vient ou te boire de l'eau ou te saccager ton jardin. Et puis ceux qui n'ont pas accès à l'élec, c'est des bouts de bois qui sont plantés. Et qui sont plantés tellement serrés que ça crée, tu vois, une petite muraille de... boisés, et puis en plus ils rajoutent aussi, tu sais, des branches d'épineux, tu sais, d'espèces d'acacia sauvages. Donc là, c'est des barrières végétales qui sont compliquées à franchir.
Ça, c'est pour les espèces menaçantes, mais est-ce qu'il y a aussi un vivre ensemble avec d'autres espèces ? Parce que j'imagine que quand il fait très chaud, on peut pas faire forcément comme chez nous, fermer la porte et puis... toutes les petites bêtes sont dehors, mais il faut aussi apprendre peut-être à vivre ensemble, non ?
D'où ils cohabitaient toute leur famille avec des chauves-souris dans le sous-plafond, et qui les aidaient justement à grignoter un peu toutes les autres espèces d'insectes. Il nous a raconté des histoires avec des serpents qui chassent de ses cuisines, tu vois, régulièrement.
Et surtout, il a combien de chiens ? Il a 5 chiens et 8 chiens, à 8 chiens et je ne sais pas combien de chats, justement pour
réussir à cohabiter, justement.
Pas se faire trop envahir par les insectes, les rongeurs.
Et après.
Python. C'est quoi, c'est Python, ça, Pierre ?
Et tu l'as rencontré où, Aldou?
À l'époque, je travaillais dans le secteur télécommunication en Afrique du Sud. Et c'était une collègue. On était contracteur pour une compagnie. Et c'était lui et sa femme qui ont fait une équipe de... on a fait de travail en accès dur, en hauteur. Je sais pas comment ça s'appelle. Tu vois, avec le corde.
Oui, les cordistes, ouais.
Quand on a fait le travail des cordistes et d'installation des antennes et tout ça. Et on a rencontré là, c'était à l'époque, avant que j'avais mon famille, femmes, enfants, tout ça. Et on était les deux à fond sur le... sur le motocross et tout, bah, on a connecté direct et on est resté amis pour des années. Et ça fait presque... Moi, je ne l'ai pas vu depuis presque 10 ans. C'est la première fois en 10 ans qu'on a vu. Bah, alors, c'était marrant parce qu'on arrivait... La dernière qu'on a vu, c'était sur les cours de moto, parcours de moto. Et aujourd'hui, c'était... encore son petit parcours de moto privé, mais avec des enfants, des familles, des femmes, et tout ce qui vient avec.
Ouais, donc je pense qu'il y a vraiment une cohabitation. En fait, il y a plusieurs différences. Où tu vis dans la brousse et tu n'as pas d'électricité, et pour aller chercher de l'eau, tu marches un moment, ou alors l'eau est à côté, mais pas dans la maison. Et là, tu es vraiment... il y a tout, quoi. Il y a les araignées et puis tous les insectes et les serpents. Et je sais pas trop comment ils cohabitent. Enfin, tu fais attention où tu marches et puis où tu te couches, et voilà, quoi. Et sinon, bah, t'as des animaux qui t'aident à les chasser. Et sinon, c'est les poulaillers. Il y a des poulaillers pour... Il y a beaucoup de poulets là-bas. C'est une des nourritures principales, voilà, dans la brousse.
Et sinon, je voyais même les filles de Waldo, elles n'avaient pas l'air d'avoir peur. Bon, elles étaient assez garçons manqués, enfin, elles faisaient la moto, tout ça, mais elles avaient un rapport aux animaux qui était... elles vivent avec. C'était dès que mes garçons sont arrivés, ils sont allés faire la chasse aux scorpions. Bon, ben voilà, pour elles, ça paraissait totalement normal d'aller faire la chasse aux scorpions avec les lampes de poche. Elles nous ont montré comment, en fait, ils étaient, certaines sortes de scorpions étaient phosphorescents dans la nuit. Donc, et elles parlent de serpents comme nous on parlerait d'un chat, quoi. Ça fait partie de leur univers, les serpents, les grosses araignées, les chauves-souris, le soir, ça faisait des bruits dans tous les sens.
Tous les bugs aussi. Comment ça s'appelle en français, les bugs?
Tous les insectes.
Ouais, tous les insectes volants qui te passent comme
ça. Voilà, et les fameux changololo qui sont ces énormes mille pattes. Et moi, j'ai des vidéos des enfants, mais c'était leur animal de compagnie. Ils ont joué des heures avec leur changololo, leur faire des parcours. Il y a aussi tous les petits bousiers là qui sont en train d'enrouler leur
la terre
et les crottes. On a une histoire très drôle autour de ça.
Que vous allez nous raconter
Pourquoi pas, hein. Bah, quand t'es en voyage comme ça, comme on a fait en safari, on vit dans la voiture, en fait. La voiture devient la maison roulante. Et donc les toilettes, des fois, c'est tu pars un peu plus loin avec une pelle et tu creuses la terre et tu fais tes besoins. C'est encore moi qui raconte une histoire de toilette, tiens. Et en fait, instantanément, quand t'as terminé, les mouches arrivent et les bousiers. Tu sais pas d'où ils arrivent, mais tout le monde est au courant, comme si t'avais fait une annonce interplanétaire qu'il y a une nourriture à disposition. Et un soir, on a Eliam qui nous appelle en criant « Venez, venez !» Et il y a des dizaines de bousiers, tu vois, des espèces de petits scarabées, qui recyclent instantanément ces selles en faisant des petites boules et en essayant de sortir du trou qu'il avait creusé pour amener ça ailleurs, quoi. Et
on n'a pas le temps de reboucher.
Que ça y est, c'est déjà recyclé.
Tu en es auto-nettoyante.
Voilà. Et donc, on a fait un petit documentaire vidéo parce qu'on trouvait ça incroyable.
Nature vivace.
Mmh.
Ça y est, on est arrivé à Mababé. On a passé toute la journée entre Savoti et Mababé, dans le bush, dans le parc national de Chobi. Et on a croisé encore plein d'animaux. Et pour clôturer notre sortie du parc, on a croisé des lions. Et c'était juste dingue. Et là, on est arrivé à Mababé, chez des amis de Waldo, le copain de Shaoli. Et on a joué, on a mangé, et là, on est dans le bush encore, très très près du parc national de Chobi, avec des bruits incroyables. Écoutez-moi ça.
You didn't drink nearly enough.
No.
Really?
No, start drinking, please. We don't have space to take it.
Okay, we will begin to drink.
Crack open a bottle of beer.
Such a big dog, guys. Come here, come here. Excuse
me. I think we left here. This we will drink.
Yeah,
I can't eat like a spoiled egg anymore.
Yeah, that's it.
I'm so used to this, yeah. Like poop. Stays it, doesn't like bubble running around. If you want a sunny side up, you get a sunny side up.
He loves me.
These hornballs are also cool, but you'll only hear them ready early in the morning.
Yeah, I think I heard a hornball this morning.
Look at
Trumpet.
This is a bird?
Yeah.
It's what? An elephant?
And was not the
nice, look, good looking bird.
Yeah. Yesterday evening I heard. No, not yesterday. Last. When we arrived, I heard one bird, like a robot. Who is playing like electronic music. Amazing.
Déjà, c'est ça, qu'est-ce qu'on ramène Moi, c'est vraiment l'accueil, être accueilli. Comment j'accueille les gens, comment je m'accueille, comment je me positionne dans le présent, comment je suis vraiment présente dans le présent. Moi, c'est ça que ça m'a appris l'Afrique. Comment je suis là, quoi. Et beaucoup, j'ai reçu beaucoup de bienveillance. J'ai vraiment, dans la guest house où on est arrivé, donc en plein cœur de Johannesburg, la première expérience de vie avec d'autres dans une guest house, avec des locaux qui travaillent là, avec des locaux qui passent parce qu'il y a un bar dans cette guest house qui est ouverte pas que aux touristes et aux étrangers qui voyagent, qui est aussi ouverte à tous les artistes parce que c'est dans un quartier d'artistes qu'elle est placée. Ben, en fait, les gens, ils font des hugs et ils te parlent comme si ça faisait 3 ans, 10 ans qu'ils te connaissent, en fait. Il n'y a pas de barrière. Même des regards en Afrique croisés un peu plus loin où tu sens la malice de la personne ou sa sagesse, ou il y a pas de masque. En tout cas, s'il y a des masques, ils sont accrochés au mur et ça fait partie, tu vois, de leur tradition. Mais tu peux vraiment vite connecter, quoi. Et ça, c'est ce que je ramène, d'avoir cette authenticité un maximum, et puis aussi une certaine lenteur pour être vraiment dans le présent. Ben, mon cerveau, il va moins vite, mon mental, il réfléchit moins, et je suis là, quoi. Et je suis dans une honnêteté, une authenticité quand les gens se parlent.
Et ben, demande à Martha.
Oh,
on n'a pas vraiment, je sais pas, quand j'arrivais, on arrivait maintenant, après 3 ans, et le Covid et tout ce qui se passait, c'était assez traumatique pour le pays, comme partout, mais là, vraiment, parce qu'avec toutes les pauvreté et la situation économique déjà complètement corrompue et tout ce qui se passe là-bas, là, maintenant, dans ce petit voyage, j'ai vraiment vu le after effect, l'après-effet de toute cette époque.
Les conséquences.
Les conséquences aussi. Le camp de squatteurs qui vraiment grandir, beaucoup plus de squats, beaucoup plus de petites villages pauvres qui habitent dans le chac. Tout ça, pour moi, il y avait un côté vraiment lourd de voir un pays qui est autant magnifique qu'Afrique du Sud par rapport à la culture, nature, tout ce qu'il a donné. Et dans un pays qui est assez ségrégué par différents partis politiques, tradition et autour de toute l'histoire de racisme, apartheid et tout ça qui comme moi j'ai grandi en Afrique du Sud, c'était juste avant que Mandela il a pris son siège de président. C'était la fin d'une époque assez traumatique pour ce pays. Et une raison que nous on a quitté l'Afrique du Sud, c'était aussi parce que moi je n'ai pas vraiment senti qu'il y a vraiment le futur pour moi et mon famille là-bas, avec toutes les crimes et toutes les situations qui tout le monde ils sont au courant presque, mais c'était trop chaud. C'était trop chaud de rester là-bas c'est me manqué de ne pas donner à mes enfants cette expérience qu'on a ici en France, comme moi j'ai grandi. Que tu prends ton vélo, tu allais chez les potes, tu finis à l'école, tu allais à pied, tu peux aller n'importe où, à pied, vélo, n'importe quelle heure de nuit. Bon, même en France, dans la grande ville, comme tout le monde, il y a des grandes villes que tu ne rentres pas dans quelques secteurs après minuit ou qu'il n'est pas très safe, mais c'est quand même pas pareil d'avoir ça.
Et c'est-à-dire que l'insouciance qui est permise ici, elle n'est pas permise en Afrique du Sud si on est plutôt privilégié comme catégorie sociale.
Voilà, complètement. Et autour des faits qui sont, hein, tu rentres dans le marché, t'es le sol blanc. Et moi, je grandis, je sens à la maison, je sens comme chez moi, mais quand tu regardes tout, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui ne vient pas de là. Automatiquement, c'est dans le fait de peur, quoi, de confort qu'il n'est pas là. Je sais, avec Mélina, quand moi j'ai parlé au téléphone la première fois, c'était en mode « Ah ouais, c'est spécial ici, waouh !» Je dis, ah ouais, t'es où? Et quand il me rencontre l'endroit de ville qu'elle a atterri pour la première fois, je dis, waouh, vous êtes. Ok, ça c'est l'endroit presque plus chaud du Johannesburg, quoi. Tu vois, c'est une zone assez artistique et cool et tout, mais en même temps, c'est chouette d'aller quand il fait bon, le soleil est avec toi. Et journée, quand il y a plein de gens, plein de monde, mais il y a quelques heures qui depuis, je sais pas, coucher de soleil, ça y est, tout le monde rentre, tu fermes la porte et tu sors pas. C'est comme, je sais pas, Sao Paulo, Brésil, quelques petites villes autour du monde qui y a un couvre-feu assez strict, quoi. Qui n'est pas mis en place par rapport au Il n'y a pas une notice sur la banque qui dit « Ah, couvre-feu, 7h, 7h ». C'est un couvre-feu, comme tu dis, qui a senti, quoi. C'est un couvre-feu automatique qui fait automatiquement par rapport au sentiment de ne pas avoir la sécurité assez... qui n'existe pas.
Et si je peux me permettre une question, parce que notre émission s'appelle D'ici et d'ailleurs, et en toi, ça crée quoi, ça? Parce que pour faire la boucle avec le début de l'émission, tu as ouvert en disant « Mais moi, ce que je retrouve ici, c'est un esprit un peu familial, convivial, d'accueil, je me sens chez moi. » Donc, il y avait le « chez moi » en Afrique. Et à la fois, tu pointes là ce paradoxe de « Finalement, aussi, on me renvoie que je suis toujours un petit peu étranger et qu'il y a une insécurité qui est là par rapport à ce que je suis. » Alors, comment ça... Ça, c'est un paradoxe qui est certainement vécu. Comment c'est en toi d'être dans cet entre-deux-là, entre ici et ailleurs ?
Je peux dire que moi, je n'ai jamais vraiment senti la peur là-bas, parce que je grandis là-bas et ça fait un côté de la tristesse par rapport à parce que je connais ce pays, j'ai grandi dans ce pays, j'ai vécu, moi je voyageais beaucoup en Afrique. Je voyageais à 17 pays en Afrique avec mon travail, avec mon vie de voyageur et tout. Et j'ai vécu plusieurs pays en Afrique et je peux dire qu'Afrique du Sud était toujours une petite étoile dans un ciel noir. C'est vraiment, vraiment, il y a quelque chose là-bas par rapport à ce qu'elle peut te donner, le mélange des cultures, de toutes les différentes tribus. Que normalement, tu arrives au Malawi ou Tanzania ou Sénégal, ou n'importe. Il y a une culture qui est presque dans tout le pays. Il y a les différentes nuances à droite à gauche, mais Afrique du Sud, non, c'est vraiment par rapport à cause de qu'est-ce qu'il a vécu toutes les années avec l'histoire de colonialisme et la manière qu'il est développé par rapport au reste de l'Afrique. C'est ça qui juste je sens. Oui, c'est la tristesse par rapport, parce qu'il y a des gens qui vraiment ils veulent accueillir, ils veulent faire plaisir à tout le monde, d'être dans le sentiment, mais à cause de toute la situation géopolitique et le reste, qui juste mis le pays dans une situation un petit peu perdue. Et de ramener ça ici, je peux dire, je sens sud-africain, je sens que j'ai un pied toujours là, un pied ici, mais ça a pris un petit peu de temps, mais c'est pour ça qu'on a finalement décidé de faire ce voyage, de prendre la décision d'aller prendre un temps assez... conséquente par rapport à vraiment aller vécu le pays, pas que la côté de la grande ville de Johannesburg, on a vécu, on a grandi, on a fait des enfants, des familles et tout, mais le reste que moi j'ai vécu quand j'étais plus jeune et célibataire, mais maintenant avec mon famille, de ramener un côté de moi et de montrer le côté 4x4, Afrique, savane, adventure et l'ouverture de cet continent en général.
Merci. Peut-être je laisse et puis tu comprends. Tu veux dire ce que ça t'a apporté, toi, ou ce que tu rapportes dans ton cœur de ce voyage et de l'Afrique du Sud?
Je rapporte beaucoup de souvenirs, beaucoup de joie, aussi un peu de tristesse parce que en voyant comment ça a changé quand même tout l'environnement de la...
Pousse pas le bouton, il y a... parce qu'il y a des boutons.
Comment ça a changé la ville, les gens... Après, moi, j'avais plus l'habitude, ça faisait longtemps, mais en Afrique du Sud, il y a beaucoup de... malheureusement, il y a beaucoup de pauvres. Donc, ça faisait bizarre pour moi de revoir tous ces gens pauvres dans les rues et tristes. Donc, c'était un peu triste de les voir comme ça, tout seul. Sinon, je ramène beaucoup, beaucoup de joie et de bonheur d'être parti et d'avoir fait ce voyage avec mon père, ma mère et Cheyenne et moi.
C'est un pays qui est vibrant au niveau des sons, au niveau des couleurs. Moi, j'ai eu un moment où j'étais assise sur un escalier et puis je regardais juste dans un arbre et j'ai vu cet oiseau magnifique se déposer et il a perdu une plume et je l'ai vu tomber la plume. Elle était bleue, magnifique et je l'ai vu jusqu'à ce qu'elle tombe. Et ça a été un cadeau magnifique parce que j'ai réussi à trouver la plume. Donc voilà, donc il y a eu plein de cadeaux qui sont difficiles à expliquer, qu'il faut vraiment vivre. Parce que pour moi, l'Afrique, c'est vraiment... c'est la musique, c'est les gens, c'est la joie. C'est des paysages qui sont tellement variés. Moi, j'étais assez impressionnée par le... C'est des déserts, c'est des forêts denses, c'est des plages somptueuses. Enfin, il y a tout dans un pays. Et en même temps, il y a ces contrastes dès qu'on arrive dans des villes avec des mendiants partout, la pauvreté. Donc, c'est vraiment un pays de contrastes, d'une grande richesse. Une grande pauvreté, donc c'est tout un espèce de mélange, mais et pour moi c'était un mélange de voilà de revenir à la maison, mais en même temps on a quitté cet endroit, maintenant on est revenu en France qui est finalement mon pays d'origine, donc c'était un mélange de plein de saveurs, c'était revoir la famille aussi, revoir les amis, en redécouvrir d'autres, se refaire des nouveaux amis, et puis partager ça surtout avec ma famille, avec mes enfants, qui étaient partis petits, et qui avaient du coup, qui avaient grandi entre-temps, qui ont repris l'anglais. Quand ils sont partis, ils avaient, en 3 ans, ils avaient complètement perdu leur anglais. Et puis d'un coup, ils se sont replongés dans l'anglais. Et Cheyenne, qui ne parlait plus un mot d'anglais, d'un coup, il s'est remis à parler anglais. Et donc voilà, pour moi, c'était une grande richesse au niveau des sens, au niveau de aussi vivre ça en famille. De vivre dehors, moi c'est vraiment d'avoir passé 2 mois dehors. Alors le retour là dans le petit appartement est plus compliqué, mais de pouvoir cuisiner au feu de bois, ouais, c'est, je suis contente que voilà qu'on ait attendu un petit peu avant pour que les enfants soient plus grands, mais c'était une C'était un beau voyage intérieur, un beau voyage au niveau aussi extérieur, au niveau des rencontres. Donc voilà, j'étais... je reviens vraiment avec avec plus de joie. Donc voilà, c'était une très très belle expérience. Et ouais, faire ça en famille, c'est une grande richesse. Voilà.